Chers frères et sœurs, fidèles laïcs et consacrés, et vous tous aussi qui nous rejoignez sur les ondes de Radio Lapourdi en direct, souffrez que ce soir, en cette messe chrismale, je m'adresse très particulièrement aux prêtres, les prêtres qui sont vos prêtres, que vous entourez de votre affection et de votre prière, auxquels vous êtes associés dans l'exercice de la mission de l'Église. Que je m'adresse à eux plus particulièrement, même si ce que je vais dire s'adresse à tous les membres du peuple de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Cet oracle messianique du prophète Isaïe, Jésus se l'est attribué en propre dans la synagogue de Nazareth, comme nous venons de l'entendre, devant ses compatriotes, stupéfaits. Cette onction du Messie, Isaïe annonce qu'elle passera dans le peuple tout entier, telle une consolation, une huile de joie au lieu du deuil, un manteau de fête au lieu d'un esprit abattu, de telle sorte que tous seront appelés prêtres du Seigneur. Aussi comme l'écrit saint Jean dans l'Apocalypse, c'est tout le peuple de Dieu qui est appelé à être par cette onction jaillissant du cœur transpercé du Christ sur la croix, un royaume et des prêtres. Autrement dit, chers frères et sœurs, nous sommes tous appelés. Qui par la grâce de son baptême et de sa confirmation, qui par la grâce de son ordination sacerdotale, à participer à la mission du Christ Jésus. Tous, chacun pour sa part, nous pouvons donc nous écrier « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Chers frères prêtres, qui allez dans quelques instants rénover vos promesses sacerdotales. Par votre sacerdoce ministériel ou hiérarchique, vous êtes appelés plus encore que les autres fidèles à prendre votre part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile, comme le disait l'apôtre Paul à son fils Timothée. Comme le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque métropolitain de Bordeaux, le confiait aux évêques du Grand Ouest de la France lors de notre visite ad limina à Rome en septembre 2012, et j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire. L'évangélisation n'est pas qu'une joyeuse campagne de communication. C'est un combat spirituel, un temps d'épreuve, où il faut s'attendre à prendre des coups. Il y a le martyr du sang, mais il y a aussi le martyr médiatique, le martyr devant l'opinion publique, et surtout pour aujourd'hui, chers frères prêtres, le martyr du service de la communion dans une église traversée par des tensions redoutables. Convenez avec moi que l'actualité de notre Église illustre bien ces paroles prophétiques, en particulier pour ce qui touche à la communion. Et la communion est précisément le service spécifique des pasteurs dans l'Église, l'évêque que je suis et les prêtres que vous êtes. En ce sens, il y a deux réalités que je voudrais particulièrement souligner avec vous aujourd'hui. Je pense d'abord à ce que nous avons vécu dans notre diocèse ces derniers mois, avec la mise au jour d'un malaise exprimé par un groupe de prêtres parmi nous, mais aussi de laïcs. J'ai bien conscience que ce malaise, où l'évêque que je suis est personnellement interpellé, a révélé des tensions vives au sein de notre presbytérium et plus largement de notre famille diocésaine. Nous en avons tous été blessés. Toutefois, depuis que ce conflit a éclaté, en particulier dans la presse, force est de constater que nous avons tous tenté, honnêtement, en particulier par les rencontres de doyennés et la médiation du Conseil presbytéral renouvelé, de passer d'une culture de l'affrontement à une culture du dialogue, pour dépasser les accusations et les caricatures réciproques. Dans nos différences, nous avons libéré la parole et cherché à promouvoir ensemble, sans nous cacher les difficultés, les obstacles, une authentique communion missionnaire. Nous sommes en chemin. Pour ma part, j'ai longuement médité le propos du pape François dans son exhortation apostolique « La joie de l'Évangile » intitulée « L'unité prévaut sur le conflit ». En effet, comme l'écrit le Saint-Père, il y a deux risques à éviter face à un conflit. Celui de l'ignorer ou de le dissimuler comme si de rien n'était, et celui d'en rester prisonnier jusqu'à perdre l'horizon, projeter sur les institutions ses propres confusions et insatisfactions, au risque de rendre l'unité impossible. Sans doute, dans un premier temps, reconnaissons-le les uns et les autres, nous n'avons pas su éviter ces risques. Même si dans un second temps, nous avons, je crois, su emprunter la troisième voie préconisée par le pape, celle d'accepter de supporter le conflit, de le résoudre et de le transformer en un maillon d'un nouveau processus. C'est en effet la seule manière de développer la communion dans les différences, d'aller au-delà de la surface du conflit et de regarder les autres dans leur dignité profonde, de regarder les autres dans leur dignité profonde. Avec le recul et un peu de distance intérieure, acceptez que je vous dise, cher frère prêtre, que j'ai essayé pour ma part de mieux comprendre de l'intérieur ce malaise. Sans doute, il me semblait, je crois de bonne foi, avoir instauré un dialogue personnel avec chacun d'entre vous, en particulier à travers mes visites pastorales, où nous avions tout loisir de parler ensemble et dont l'objectif était bien d'encourager tous les acteurs de la mission. Je note toutefois, et je veux en prendre acte, que cela n'aura pas suffi à certains pour faire entendre leurs ressentis ou leurs désaccords, ou tout simplement pour les exprimer. Aussi, un certain nombre de prêtres ont eu besoin de la médiation du groupe dit de Mourinx pour interpeller leur évêque. Et aujourd'hui, je voudrais n'en retenir que le positif pour avancer ensemble. Dans les décisions prises pour orienter l'avenir, je n'ai certes pas fait cavalier seul, en m'appuyant en particulier sur la collaboration précieuse des prêtres qui constituent mon conseil épiscopal depuis plus de 8 ans. Mais je reconnais ne pas avoir manifesté de manière assez claire et concrète ma reconnaissance et mon estime à tous les prêtres, dont certains ont pu se sentir rejetés aux marges ou laissés pour compte. Si j'ai pu manquer de pédagogie, j'en demande pardon. Car je ne doute pas que si tous les prêtres ne sont pas appelés à participer indistinctement aux décisions qui engagent la vie et l'avenir d'un diocèse, tous ont une valeur ajoutée à apporter à la construction de l'Église qui est un mystère de communion missionnaire. En ce sens, nous ne devons jamais perdre de vue, comme le précise encore le pape François, que le premier domaine où nous sommes appelés à conquérir cette pacification dans les différences, et Dieu sait si elles sont nombreuses aujourd'hui dans notre presbytérium, c'est notre propre intériorité, notre propre vie, toujours menacée par la dispersion dialectique. Avec des cœurs brisés en mille morceaux, il sera difficile de construire une authentique paix entre nous. Il en va de notre propre vie intérieure et de notre effort commun pour nous tourner ensemble vers le Christ, qui seul est notre paix. Dans l'Église ancienne, le carême était certes le temps de la préparation des catéchumènes au baptême, mais il était aussi particulièrement réservé aux pénitents publics, ceux qui étaient admis à la réconciliation des pénitents, précisément le jeudi saint, en tout cas à Rome, pour pouvoir célébrer dignement le mystère pascal du Christ. Ne devrions-nous pas profiter précisément de cette messe chrismale pour demander cette grâce de la réconciliation des pénitents que nous avons voulu être tout au long de ce carême, nous les prêtres en particulier, tant nous avons la conviction que les fidèles laïcs ont besoin de voir leurs prêtres unis fraternellement, malgré leurs différences. La fécondité de notre mission d'annoncer l'Évangile aux pauvres est à ce prix. Dans cette perspective de la réconciliation, le carême est devenu, au fil des siècles, un temps de conversion pour tous. Alors il ne s'agit plus, et il ne s'agit jamais pour nous, de désigner des coupables admis à la pénitence après avoir reconnu devant l'Église leurs fautes et de prier pour eux. Mais il s'agit de nous reconnaître tous pécheurs, qui que nous soyons. C'est tout le peuple qui est pressé d'implorer la pitié du Seigneur, qui que nous soyons. Nous sommes solidaires les uns des autres dans le péché de nos frères. Et c'est pourquoi nous acceptons volontiers de nous unir aux pécheurs pour implorer le pardon du Seigneur. Parmi les péchés que l'Église doit affronter aujourd'hui, à l'échelle de la planète, il y a, nous le savons que trop bien, le scandale de la pédophilie. S'il continue à défrayer la chronique, surtout s'il touche des prêtres, nous pouvons certes regretter le traitement médiatique qui en est fait, mais nous ne pouvons pas nous dédouaner pour autant. Il ne suffit pas pour nous de sortir de la culture du silence, ni de collaborer avec la justice, ou d'adopter de manière responsable des mesures préventives pour éradiquer ce fléau. Il faut encore que nous prenions la mesure de la gravité de tels actes, précisément quand ils sont accomplis par des prêtres. La parole la plus difficile et intransigeante de Jésus dans l'Évangile ne concerne-t-elle pas précisément le scandale envers les petits qui croient en lui ? Comme me le confiait récemment un homme, victime d'un prêtre il y a près de 50 ans, je cite, « Ce n'est pas tant la demande de pardon que vous me faites au nom de l'Église qui m'importe. Mais c'est que l'Église se mette à genoux pour demander pardon à Dieu. Car ce prêtre, alors que je venais de faire une expérience spirituelle forte à l'occasion de ma grande communion, m'a séparé de Dieu. Non seulement il m'a volé mon identité, mais il a violé mon âme. La mesure de la pédophilie, chers frères et sœurs, est théologale. Sans doute, elle prolifère dans un contexte social profondément déstructuré et livré à une sexualité débridée. Mais elle peut révéler aussi, dans l'Église, un grave affaiblissement de la foi que saint Jean-Paul II n'hésitait pas à appeler une apostasie tranquille et silencieuse. D'où la nécessité d'un effort communautaire pour remettre la prière, l'adoration eucharistique, la pratique du sacrement de la réconciliation au centre de notre vie sacerdotale et de la vie de la communauté chrétienne tout entière. D'où la nécessité aussi de nous atteler tous ensemble à un effort communautaire de conversion, de purification, de réparation et de réconciliation. Sans omettre de justes peines médicinales pour les coupables et une vraie sollicitude pour aider les victimes à se reconstruire, nous devons toujours et sans cesse implorer avec confiance la miséricorde du Seigneur pour tous. Elle seule peut apporter une authentique guérison. Il en va de la crédibilité de notre mission commune d'annoncer l'Évangile aux pauvres dans le contexte d'aujourd'hui. Pour conclure, alors que nous allons procéder à la bénédiction des saintes huiles, nous prierons tout spécialement en ce jour pour les malades qui recevront au cours de cette année l'huile des malades pour être fortifiés et consolés dans leur épreuve. Et nous pensons, nous prêtres, en particulier aux prêtres touchés par la maladie. Nous prierons pour les catéchumènes qui vont recevoir l'huile des catéchumènes avant d'accueillir la grâce du baptême. Nous prierons pour les confirmants qui vont recevoir la force du témoignage et pour les futurs prêtres de cette année, dont les mains seront consacrées par l'onction du Saint-Crème, signe de leur configuration au Christ, tête, pasteur, serviteur et époux de l'Église. Oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Chers frères et sœurs, puissions-nous prendre l'engagement d'être les serviteurs et les ministres de cette onction qui guérit et console les cœurs brisés, qui délivre et libère les prisonniers de tous les esclavages de l'âme et du corps, qui donne la paix à tous ceux qui sont éprouvés par des conflits. Amen.